Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Comment trouver les mots qui font mouche pour captiver son auditoire ? La question passionne les foules aujourd'hui. Les concours d'éloquence et de rhétorique rencontrent un succès phénoménal, mais qui n'est pas nouveau, car l'art oratoire faisait déjà des émules au Moyen-Âge. Et Nicole Berrioux, la spécialiste incontestée de la parole publique de cette période, en sait quelque chose. Et c'est précisément le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Nicole Berrioux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, médiéviste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et la communication dans la société médiévale est un sujet qui vous passionne depuis des années. Vous avez publié en 2024 un livre qui rassemble un certain nombre de vos articles antérieurs, « Les pouvoirs de l'éloquence, prédication et pastorale dans la chrétienté latine au XIIe et XIIIe siècle », c'est le titre de cet ouvrage, une fenêtre ouverte sur l'art subtil de la parole médiévale, et vous y étudiez dedans comment les prédicateurs au Moyen-Âge utilisaient l'éloquence pour transmettre les enseignements de l'Église, toucher les cœurs des fidèles et promouvoir la foi. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à notre micro pour en parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une question préliminaire. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré dans l'étude de la communication et de l'éloquence au Moyen-Âge qui est devenu un petit peu le fil rouge de vos recherches ?
Paradoxalement, ce sont les manuscrits, c'est-à-dire des textes écrits, ce qui est un peu étrange. Mais en fait, comme vous le savez, on n'a pas d'enregistrement de la parole, hélas. Et donc, tout historien dépend évidemment de l'écrit. Et il se trouve que un jour, à la Bibliothèque nationale, j'ai travaillé sur un manuscrit dans lequel j'ai découvert que l'étudiant de la Sorbonne qui était à l'origine de ce manuscrit avait en réalité pris des notes pendant les sermons de ses collègues. Il était étudiant en théologie. En tant qu'étudiant en théologie, il se préparait à transmettre la foi à travers la connaissance de la Bible. Et donc, au lieu de travailler uniquement sur des modèles qu'on pouvait trouver chez les libraires, eh bien lui, il allait écouter les sermons de ses confrères et il les prenait en note. Et on a conservé ce document car, étant membre du Collège de la Sorbonne, il a légué son manuscrit à sa mort à la bibliothèque du collège. Et j'ai été fascinée parce que je ne savais pas qu'on pouvait espérer trouver, disons, un écho de cette parole vive à travers l'écrit.
Et c'est ce que vous racontez au tout début de votre livre. Vous commencez
par probablement, oui, parce que ça m'a tellement marqué que finalement, c'est une anecdote qui fait sens. C'est-à-dire que on n'a pas nécessairement une idée préconçue quand on est encore étudiant et qu'on essaye de trouver un sujet de thèse. Et là, ça s'est imposé.
Alors, je vous propose de commencer par une petite contextualisation historique de l'époque qui nous intéresse aujourd'hui. Vos recherches, Nicole Berrioux, s'articulent donc autour du XIIe et XIIIe siècle. Nous sommes en plein cœur de cette chrétienté latine. C'est un moment important de notre histoire religieuse. Et c'est au cours de cette période que ce qu'on appelle la prédication va prendre son essor.
Voilà. Et en fait, je crois qu'il faut bien insister, elle est de tous les temps de l'histoire du christianisme, de la christianisation, puisque, en effet, on s'appuie sur, au fond, le mandat donné par Jésus à ses apôtres, aller prêcher à toutes les nations. Donc, évidemment, la prédication fait partie des fondamentaux de la religion chrétienne. Mais on sait aussi que, historiquement, il y a des hauts et des bas. Il y a des gens qui sont capables de le faire ou qui ont envie de le faire, qui sont conscients que c'est important ou non. Il y a des circonstances aussi sociales plus ou moins favorables. Et il se trouve que, dans cette longue histoire, le XIIe et le XIIIe siècle prennent de l'importance parce qu'il y a au fond une rencontre à ce moment-là entre une demande et une offre. La demande, c'est celle du peuple. Et donc, en face, nous avons des clercs dont les uns sont effectivement dans ce portrait-là, mais d'autres sont conscients aussi qu'on n'étudie pas la Bible simplement pour s'élever peu à peu vers la contemplation de Dieu. Mais la Bible, justement, c'est un peu le trésor des clercs qui savent lire, qui savent le latin. Mais ce trésor ne doit pas être caché. Ce trésor doit être transmis. Et donc, dans les écoles des églises cathédrales, il y a des clercs qui, dès le XIIe siècle, se mettent à une étude en vue de transmettre la parole de Dieu. Et là-dessus va venir se superposer, au fil du temps, la conviction que c'est tellement important qu'il faudrait même qu'il y ait des clercs spécialisés dont le rôle dans la société, c'est de prêcher. Et ça, ça se passe au XIIIe siècle. C'est l'intuition de Saint-Dominique, principalement, hein, qui fonde un ordre qui s'appelle aujourd'hui des Dominicains, mais à l'époque, ça s'appelait l'ordre des prêcheurs. Donc, le nom dit tout. Et puis, en face, il y a aussi, bien sûr, l'intuition de François, pour qui on prêche avant tout d'exemple, à travers une façon de vivre qui montre qu'on est chrétien. Et donc, cette parole, cette vision de la prédication se double d'une parole, plus exactement, et d'une parole d'exhortation à changer de vie. Et donc, on va avoir là deux ordres dont le rôle est de prêcher, les dominicains et les franciscains, qu'on appelle à l'époque les frères prêcheurs et les frères mineurs, les petits frères.
Ils appartiennent à la catégorie des ordres mendiants, c'est ce que
exactement.
Vous expliquez dans...
Mendiants parce qu'ils déclarent que, vivant sur le modèle que prescrit l'Évangile, ils ne veulent pas avoir de bien, ils veulent avant tout donc être des pauvres, à l'image du Christ d'ailleurs, et ils doivent vivre au jour le jour avec ce qu'on leur donne, d'où le nom de mendiant, qui petit à petit va leur être appliqué, mais au début, il n'en est pas question. Dans les premières années, c'est une construction historique qui date, au fond, d'une cinquantaine d'années après leur apparition. Ils apparaissent au début du siècle. Et au début, on dit simplement frère prêcheur, frère mineur, voyez.
Et ces nouveaux ordres religieux font de la prédication leur priorité.
Exactement, c'est leur mission. Ils sont vraiment dans la société pour ça.
Alors, cette prédication s'inscrit dans un nouveau contexte religieux aussi qu'on appelle le tournant pastoral, qui implique un changement de perspective et de priorité de la part de l'Église. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce tournant-là ?
Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte où l'Église est en train de changer dans sa structure. On avait affaire, au cours du premier Moyen-Âge, disons le premier millénaire, en gros, à une Église structurée par diocèse, par pays éventuellement, et petit à petit, donc, va émerger la volonté d'une structuration plus forte du clergé sous l'autorité pontificale. Et simultanément, il y a aussi un courant extrêmement puissant qui est celui de revenir aux sources du message religieux, du message chrétien, et donc d'imiter les apôtres. Et ça, ça va devenir quelque chose aussi de très important. Et la combinaison des deux fait que, petit à petit, on voit émerger l'idée que, d'une part, le clergé est vraiment responsable du salut de tous, alors que dans le premier millénaire, on disait que c'était aussi le rôle des pouvoirs politiques. Par exemple, l'empereur carolingien avait le souci du salut de tout son peuple. Bon. Mais là, ça devient vraiment une responsabilité des clercs. Si bien d'ailleurs que nous connaissons encore aujourd'hui le terme de curé, qui représente au fond le responsable d'une paroisse, mais c'est un nouveau terme qui apparaît au XIIIe siècle et qui veut dire celui qui a le soin, curare, soigner, qui a le soin des âmes. Donc c'est une prise de conscience qui apparaît à ce moment-là, et en même temps, ça va se traduire par l'idée que ces clercs ont une responsabilité qui s'exprime dans la communication de la parole de Dieu, et c'est cela donc qui va donner naissance à ce tournant pastoral, c'est-à-dire des clercs qui fonctionnent un peu comme des bergers vis-à-vis du troupeau, avec d'ailleurs une notion d'autorité qui va en même temps s'imposer là. Hein. Il y a une hiérarchie verticale entre les clercs et les laïcs.
La notion d'autorité qui s'impose, et puis l'éloquence qui s'impose également et qui va se révéler être un outil de travail crucial pour ces prédicateurs dans la transmission de leur foi. Peut-être un mot sur ces prédicateurs. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Voilà, ils dépendent d'un ordre religieux en particulier, mais... Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces personnes-là ?
Alors, je parlais tout à l'heure des frères de Saint-Dominique et de Saint-François, mais ça ne commence pas avec eux. C'est-à-dire qu'eux arrivent au début du XIIIe siècle, mais au XIIe siècle, il y a déjà un phénomène sensible dans les écoles des cathédrales, où justement, ce sont des clercs séculiers, des gens qui vont s'engager à la tête des communautés d'habitants, soit comme évêques, soit comme responsables, on disait recteurs, et après on a dit curé, hein, donc responsable des paroisses, et qui travaille véritablement la Bible en vue de la communiquer. Donc c'est d'abord eux. Évidemment, on est plus ou moins bien informé, c'est un problème de source, comme toujours, les historiens sont confrontés à ce problème constamment, et nous avons surtout donc des documents épars dans certaines églises, et le cas tout à fait exceptionnel de Paris, qui est vraiment bien documenté, fait qu'on peut là prétendre étudier dans la longue durée les évolutions, voir comment les choses se passent dans la ville. Il faut aussi immédiatement introduire la différence entre ville et campagne. On est à une époque où les villes se développent, le mouvement d'urbanisation est en plein essor. Et bien entendu, c'est là que l'on voit des phénomènes innovants, parce qu'il y a une demande particulière. La population est en train de se constituer avec beaucoup de classes sociales différentes. Il y a des gens déracinés, il y a des reconstitutions aussi de communautés, de gens qui se rencontrent. Nous sommes à une époque où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux à travers ces petits outils que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est dans le quotidien que des communautés de quartier, des communautés par aussi affinité intellectuelle ou spirituelle se constituent. On voit se mettre en place des confréries, on voit des œuvres d'assistance pour aider les plus pauvres. Donc il y a tout un environnement qui fait que on sent bien aussi que le message religieux il passe par des tas de canaux. Hein. Et donc dans ce contexte-là, on va petit à petit sentir dans les milieux urbains un courant très important, soutenu d'abord par les écoles de théologie dans les cathédrales et ensuite relayé par les frères, qui va donc donner naissance à cette pratique régulière de la prédication de l'éloquence.
Et vous avez parlé de Paris à l'instant, la question des lieux où se déroule la prédication vous a beaucoup intéressé. Est-ce que, à part Paris, d'autres villes se sont distinguées dans le développement, disons, de cette prédication à l'époque ? Est-ce qu'il y a d'autres villes importantes ?
Oui, il y en a d'autres, mais je crois que Paris est unique dans la richesse documentaire dont on dispose. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que Paris est un endroit où une école de théologie va vraiment l'emporter sur toutes les autres, à une époque où on structure l'enseignement supérieur et où on voit naître les universités, hein, début du XIIIe. Et donc, il y a là une faculté de théologie qui est le résultat de courants qui existaient déjà au XIIe siècle. Et cette faculté de théologie, justement, ambitionne de former les clercs en vue de prêcher. Et d'autre part, Paris a également une capacité à faire circuler l'information qui est tout à fait extraordinaire, parce que dès le début du XIIIe, vu l'attrait de cette vie intellectuelle, les frères de Saint-Dominique et de Saint-François vont installer des lieux de résidence, qu'on appellera ensuite des couvents, mais au début, c'est vraiment des petites choses assez ordinaires. Petit à petit, ils vont s'implanter de plus en plus fort. Et là, ils vont produire des outils pour montrer comment il faut prêcher. Donc, j'ai un collègue anglais qui a travaillé sur les sermons modèles et il a bien dit que ces modèles sont diffusés, c'est le titre de son livre, diffusés depuis Paris au XIIIe siècle. C'est-à-dire que on voit là confluer toute une série de phénomènes qui vont donner à Paris une place singulière. Ce n'est pas la seule ville, bien entendu. Il se trouve que, par exemple, en Italie, j'ai eu l'occasion de travailler avec toute une équipe de chercheurs sur la ville de Pise, parce que à Pise, il y a un évêque formé à Paris, comme par hasard, et qui, vers le milieu du XIIIe siècle, met en pratique, au fond, ce modèle et devient un grand prélat prédicateur. Et donc, par chance, on a conservé le manuscrit de ses sermons. Et sans ça, on ne saurait rien de lui. Et avec ça, tout d'un coup, on voit émerger la figure d'un prélat, donc d'un séculier, pas d'un frère mendiant, d'un séculier qui, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, devient un prédicateur extraordinaire qui a des sermons magnifiques. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces textes. Donc, Pise est aussi un exemple. Il y en a d'autres, bien entendu, mais disons que vraiment, Paris a l'avantage de combiner une richesse documentaire qui permet, par comparaison, de voir un peu tous les aspects de l'éloquence.
Là, vous avez cité un prédicateur connu. Est-ce qu'il y a d'autres exemples spécifiques de prédicateurs médiévaux dont l'éloquence a eu un impact particulier, particulièrement notable?
Alors, l'impact, c'est le vrai problème. Parce que vous avez tout à fait raison de poser la question, parce qu'en réalité, on peut s'intéresser de 36 000 manières à la prédication, mais pour moi, du jour où j'ai découvert qu'on pouvait avoir des notes d'auditeurs, je me suis dit, mais ce qui est important dans la prédication, tout autant que ce qui est dit, c'est ce que les gens entendent, c'est ce qu'ils reçoivent, c'est ce qu'ils retiennent. Et ça, c'est très difficile à savoir parce que, bien entendu, ces notes d'auditeurs qu'on a à l'époque, ce sont des étudiants qui apprennent à prêcher. On n'est pas encore face à des laïcs qui maîtriseraient suffisamment la prise de notes pour prendre des notes. Ça commence en Italie, à la fin du XIIIe, mais les Italiens ont la pratique du notariat, et de temps en temps, on trouve en Italie ce phénomène des prises de notes. Mais pour la France, c'est extrêmement difficile avant l'époque moderne. Et donc, si vous voulez, le problème de l'impact se pose constamment et on est obligé de travailler de manière indirecte en se disant, mais au fond, l'impact, c'est eux qui le sentent. Ils savent bien que leur métier est extrêmement important et donc c'est à travers la manière dont ils vont s'exprimer que l'on peut pressentir le succès de leurs paroles. Et d'autre part, c'est aussi dans les éléments de masse, c'est-à-dire la fréquence des sujets qu'ils abordent, des mots qu'ils utilisent pour développer leurs idées. C'est à travers cela que l'on peut pressentir une forme de capillarité du message qui fait que le message va passer dans la tête des gens. Et ça, si vous voulez, c'est moins le fait d'un prédicateur en particulier. Je crois qu'il faut renoncer à l'idée du prédicateur à succès. Ça, on va le trouver à certaines époques, à certains moments, dans certains lieux. Par exemple, il y a un prédicateur franciscain célèbre au XIIIe siècle qui prêche en Italie, qui s'appelle Berthold de Regensburg. Et lui, alors, il a vraiment un succès de masse. Il y a un autre exemple en Italie, dans les années 1230, il y a aussi une situation extrêmement difficile de conflit. Et là, on voit, pour la première fois d'ailleurs, les frères mendiants prendre la parole et imaginer tous les stratagèmes pour s'attirer le succès. Et ce sont les chroniqueurs qui en parlent. Mais globalement, je crois qu'il faut un peu se détacher de cette idée du prédicateur à succès et penser en phénomène de masse, c'est-à-dire se demander comment les prédicateurs ordinaires font passer le message à travers les mots.
Et justement, est-ce qu'ils ont recours à des méthodes, des astuces rhétoriques particulières pour capter cette attention du public ?
Alors oui, bien sûr. Ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est la manière dont ils racontent des anecdotes pour essayer de capter l'intérêt du public, mais je dirais surtout aussi de faire mémoriser le message, ce qu'on appelle les exemplats, c'est-à-dire des histoires assorties d'une morale qui viennent souvent de la culture des gens eux-mêmes à qui ils s'adressent. Donc, ils les reprennent, ils les utilisent, ils les moralisent en quelque sorte. Donc ça, évidemment, c'est une technique. Mais on a peut-être un petit peu exagéré l'importance de cet élément de la rhétorique, parce qu'évidemment, c'était aussi une manière de voir un peu au deuxième degré ce qui était la culture des gens à qui ils s'adressaient, parce qu'il fallait bien qu'ils prennent des choses que les gens connaissaient déjà, même s'ils les transformaient. Mais je pense que quand on regarde d'un peu plus près ce qui nous reste des sermons, les textes que nous avons, eh bien, on se rend compte que l'exemplum, les exemplats, ont une importance un peu stratégique, on va les mettre à certains endroits, etc. Mais fondamentalement, ce qui importe, c'est la structure du discours. Et dans la structure du discours, c'est la façon de travailler sur le langage, c'est-à-dire introduire des récits à l'intérieur d'un discours, mais travailler l'expression même du discours pour s'appuyer sur certains mots qui ont des sens multiples. C'est au fond la valeur de la métaphore qu'ils ont exploitée de cette manière-là. Pas comme des poètes, bien entendu, ce sont des éducateurs. Mais quand même, certains d'entre eux atteignent la poésie. Et de toute façon, ils ont la conviction qu'à partir du moment où ils parlent avec les mots des gens à qui ils s'adressent, ils ont une possibilité de faire comprendre à ces gens que le langage est plein de ressources et que les mots de la vie ordinaire, les mots de leur métier, les mots de leur sensibilité, tous ces mots-là peuvent porter aussi un message qui est spécifiquement religieux. Et c'est ça qu'ils font.
Et vous avez des exemples de mots, de métaphores utilisés
Alors, c'est très souvent tiré de la Bible, puisque l'idée, c'est quand même cette éloquence, en quelque sorte. Il s'en méfie un petit peu de l'éloquence humaine, c'est-à-dire, vous savez, des méthodes rhétoriques telles qu'on les enseignait dans les écoles de l'Antiquité ou telles qu'on les trouve dans les traités de Cicéron et puis qu'on continue à enseigner, évidemment, encore dans les universités médiévales. Mais il s'en méfie parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut trahir la vérité. Donc, il faut faire un peu attention. D'ailleurs, vous savez, ceux qui utilisent la rhétorique à plein, ce sont les avocats et ils ne sont pas très aimés par les prédicateurs. Mais les prédicateurs, plutôt que cette éloquence là, se réclame de la parole de Dieu qui se dit en latin, parole c'est eloquium, hein, parler, le verbe loqui, donc eloquium, éloquence, et cette éloquence-là, en fait, elle leur vient de Dieu. Donc, ils vont plutôt dire, plus on utilise la Bible pour faire sortir les réalités, et plus on se rapproche de cette éloquence qui est propre à la prédication, qui est une forme sacrée. Et alors, les mots qu'ils vont employer de la Bible, ce sont des termes simples qui correspondent au quotidien. Donc, vous savez, comme déjà Jésus utilisait dans les paraboles, et puis donc vous aurez le pain, vous aurez la vigne, mais aussi des mots qui sont davantage liés peut-être aux pratiques sociales, pratiques de métier, etc. Et donc, par exemple, il y a, c'est très amusant, la foire. La foire, c'est quelque chose qui est typiquement médiéval. Vous savez, à certains moments de l'année, dans les grandes villes qui en sont spécialistes, en Champagne par exemple, il y a des cycles de foire, et alors tout le monde vient à la foire, fait ses affaires, etc. Et il faut savoir gérer son temps quand on est à la foire. Eh bien, ça devient une métaphore de la vie chrétienne. C'est-à-dire que, bon, quand on sera mort, ce sera trop tard. Et donc, il faut savoir user du temps de la vie dont on dispose. Et le temps de la vie, c'est comme le temps des foires. On fait des affaires, et donc, il faut absolument savoir gérer son temps. Et ça, ça parle aux gens, forcément, parce que c'est tellement dans leur culture quotidienne. Et donc, ça permet de charger la notion de foi d'une réalité d'un autre ordre.
Et toutes les classes sociales sont visées? Non, c'est des
alors,
sermons.
Oui, on va utiliser des ressources qui viennent d'abord de la culture paysanne, parce que la plupart des gens de cette époque, en fait, ont une culture paysanne. Hein. Même dans les villes, il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas d'édifices, mais qui sont des jardins dans lesquels on va donc produire du maraîchage en particulier. Et puis tout le monde a quand même dans sa famille, même quand on habite en ville, il y a des gens à la campagne. Donc la campagne, c'est très important. Il y a aussi tous les métiers, bien sûr. Et puis surtout, alors, il y a... Ça, c'est de l'ordre un peu de la vision du monde. Il y a une culture aristocratique qui est partagée par toute la société.
Elle inspire.
Et ceux qui sont dans l'aristocratie, bien sûr, la cultivent, mais ceux qui n'y sont pas y aspirent. Et dans une ville où on s'adresse plutôt à des artisans, à des bourgeois, eh bien, prendre des métaphores aristocratiques, c'est très important. Par exemple, le tournoi. Par exemple, les chevaliers qui vont au tournoi et qui sont très fiers quand ils sortent du tournoi parce qu'ils peuvent prouver qu'ils ont été les meilleurs à travers les traces sur leur corps, les cicatrices. Et cette image de la cicatrice du vétéran, c'est quelque chose qui va être utilisé par les prédicateurs pour dire aux gens « vous ne voulez pas vous confesser, mais en fait, vous savez, même si vous vous confessez, vous croyez qu'on va encore voir vos péchés à la fin des temps, au moment du jugement dernier, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme les cicatrices des vétérans, c'est-à-dire que c'est un signe de gloire, en fait, parce que ces péchés-là, bien sûr, vous les avez commis. Mais puisque vous les avez confessés, vous êtes plus méritant que n'importe qui. Et ça, c'est un sermon qui est prononcé en plein milieu du XIIIe siècle à Paris par un franciscain célèbre qui s'appelle Bonaventure et qui a été ministre général des franciscains. Et donc, c'est l'idée, vous voyez, qu'on peut utiliser un peu toutes les ressources du langage pour faire comprendre des choses et en même temps faire rêver les gens.
Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la forme que prenaient ces discours, ces sermons à l'époque. Mais si on s'intéresse au contenu, qu'est-ce qu'ils préconisent concrètement ces prédicateurs à leurs fidèles ?
Alors, il faut prendre les choses à deux niveaux. C'est-à-dire, dans le contexte général 12e-13e siècle, il y a une préoccupation qui est vraiment essentielle. Je vous le disais, c'est le retour un peu aux origines, à la vie
des
premiers chrétiens, au message fondamental de l'Évangile. Et le message fondamental de l'Évangile, c'est déjà ce que dit Jean-Baptiste dans sa prédication. Et ce que reprendra ensuite Saint-Pierre, convertissez-vous et croyez. Voilà, ça c'est vraiment la chose essentielle. Et se convertir, c'est pas changer de religion, c'est changer de vie. C'est prendre conscience qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne ligne de ce qu'on attendrait d'un chrétien et donc changer. Voilà. C'est le sens vraiment étymologique de la conversion. Alors, la conversion, donc, c'est vraiment la tonalité de fond. Et la conversion, ça va se traduire par un changement de vie qui est une vie pénitente, mais pas sous une forme souffreteuse de la pénitence, mais simplement parce que on va décider de se prendre en main différemment et à partir de là, donc, de ne plus donner la même importance à toutes les choses. Donc, il y a une forme d'ascétisme qui peut exister, etc. Voilà, ça, c'est l'aspect fondamental. Le jeûne, par exemple, c'est très, très important à cette époque-là et c'est pas vécu nécessairement comme une souffrance, mais c'est aussi une manière de maîtriser son corps. Voilà. Alors, vous avez ça d'un côté, cette tonalité d'ensemble. Et puis, il y a greffé là-dessus, précisément cette structuration de l'Église comme une Église responsable du salut, qui va donc orienter les gens vers des comportements qui vont les conduire au salut, en gardant aussi une place importante dans tout le système. Et la place importante, elle existe à travers les sacrements. On va justement opposer la critique que font les laïcs des clercs, l'idée que les clercs ont quand même une responsabilité d'administrer les sacrements. On fabrique la liste des 7 sacrements au XIIe siècle, tout ça c'est contemporain, et l'un des sacrements, c'est le sacrement de pénitence. Mais ce sacrement de pénitence, on ne va pas l'appeler pénitence, curieusement, on l'appelle bien sûr dans les ouvrages théologiques, mais communément, on dit sacrement de confession. Parce que le moment important, c'est le moment où l'homme qui a conscience qu'il a mal agi, qu'il a commis des péchés, va aller voir un prêtre pour obtenir la rémission des péchés à condition de les avouer. Et je dirais même, avant de les avouer, de rougir de ses péchés, d'avoir honte. Et ça, c'est extrêmement important. La contrition, c'est le premier degré. Donc ça nous rapporte à la conversion. Mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi un acte, un geste et une soumission à l'autorité. Cette autorité qui est une autorité en même temps vécue par les prêtres, semble-t-il, quand même en ayant conscience que leur autorité vient de Dieu, puisqu'ils déclarent en quelque sorte que le pénitent est absous de ses péchés. Hein. Ils n'ont pas d'autre rôle particulier. Et puis, ils doivent respecter le secret de la confession. Mais la confession devient quand même le moyen de maîtriser, vous voyez, de manière pastorale, de dire, ben voilà, on discipline les choses. Il faut qu'au moins une fois par an, les gens se confessent. Une fois par an. En réalité, c'est un minimum parce que depuis le début de l'histoire chrétienne, la pratique d'avouer ses péchés, elle a pris des formes multiples et elle existait tout le temps. Mais là, on fixe un minimum. C'est une discipline, vous voyez, et ça va être à Pâques. On se confesse avant la date de Pâques et ça permet ensuite de communier le jour de Pâques, autre sacrement important de la vie chrétienne.
Et avant ce moment, la confession n'était pas du tout inscrite dans les pratiques des fidèles.
Si, elle n'était pas réglementée de cette manière impérative. Mmh. Et on sait que la coutume, quand même, a été de se confesser plus souvent, au contraire. Hein. La confession, la reconnaissance que l'on est pécheur, c'est un peu fondamental dans la conception chrétienne. Et donc, vous la trouverez tout le temps. Vous la trouverez non seulement chez les moines, mais aussi chez beaucoup de laïcs, qui vont même, quand ils sont conscients d'être grands pécheurs, décider pour, au fond, réparer leurs mauvaises actions, de faire des choses très importantes, comme aller en pèlerinage à Jérusalem, par exemple. Donc tout ça, ça existe. Mais même l'idée que l'on doit se confesser 3 ou 4 fois par an au moment des grandes fêtes. Mais disons que c'est plus ou moins respecté et qu'à un moment donné, quand la discipline à peu près uniforme dans l'Église d'Occident, dans l'Église latine, sous autorité pontificale, se met en place, eh bien, on décide que le minimum requis, c'est une fois par an. Et ça, c'est une règle qui est établie dans un concile général qui vaut pour toute l'Église et qui se tient en 1215. On est exactement au début du XIIIe siècle, c'est le grand concile de Latran IV.
Alors, on n'a pas encore parlé du rôle des femmes, mais on apprend qu'elles ont pu tenir une position importante, du moins au début, dans les premières prises de parole.
Oui.
Alors, les sources sont peu nombreuses, donc
oui, évidemment.
Difficile.
Enfin, vous savez, maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît Hildegarde de Bingen, évidemment. Mais bon, Hildegarde, c'est un peu l'exception quand même. Hein. C'est une femme qui a une inspiration tout à fait exceptionnelle, qui a un rayonnement tout à fait exceptionnel. Même Saint-Bernard reconnaissait son autorité, ce qui n'est pas peu dire. Mais disons que ce qui est certain, c'est que il y a dans cette société travaillée par le message chrétien, il y a depuis déjà, je dirais, fort longtemps, une reconnaissance du rôle des femmes, parce que tout simplement, l'Évangile en parle, parce qu'il y a le fameux modèle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, bien sûr, s'est repentie de ses péchés, voilà un bel exemple aussi de contrition, mais Marie-Madeleine qui, en même temps, a été l'une des premières à constater la résurrection, en allant au tombeau, et qui a été envoyée par l'ange pour dire aux apôtres que le Christ était ressuscité. Et donc, Madeleine, dans la liturgie, elle est célébrée comme l'apôtre des apôtres. C'est une magnifique dénomination, et en même temps, ça montre qu'elle est capable de professer une parole. Voilà. Et donc, il y a des modèles positifs et on a des discussions au XIIIe siècle pour savoir jusqu'à quel point les femmes ont le droit justement de prendre la parole en public parce qu'il y a bien sûr une vision contraire qui est transmise par les commentaires sur les épîtres de Saint Paul où on dit que les femmes dans les églises, elles doivent se voiler et se taire. Donc là, c'est tout à fait rédhibitoire. Et en réalité, pendant un certain temps, on en a discuté. Certains disaient même que, bah oui, au début de l'église, il n'y avait pas tant que ça de monde, donc on prenait ceux qui étaient là. Et les femmes avaient parfaitement le droit de prendre la parole. Mais à partir du moment où il y a eu suffisamment de clercs pour le faire, il n'y avait plus besoin des femmes. Ça a été une vision. Mais quand même, je pense que ce qui persiste, c'est l'idée que la relation entre la mère et ses enfants est si forte que, bien sûr, on a cette tendance sociale d'écarter les femmes de la parole publique, mais en revanche, on a la conscience qu'elles sont les meilleures alliées des prédicateurs.
Dans la sphère intime.
Dans la sphère intime, voilà, exactement. Et donc, on a de très très jolis témoignages à cet égard, enfin, où on voit bien comment les femmes, quand même, ont, de ce point de vue, une réelle autorité.
Je voulais m'arrêter un instant sur le titre de votre ouvrage, oui. Nicole Berriou, Prédication et pastorale dans la chrétienté latine. Oui. Et j'insiste sur chrétienté latine, oui. Parce que le latin est la langue par laquelle va se diffuser le christianisme. Les prédicateurs vont avoir recours à cette même langue pour s'adresser aux fidèles, ou alors est-ce qu'ils vont aussi adopter d'autres langues ?
Alors là, on voit bien comment les choses évoluent au cours du Moyen-Âge, parce que c'est vrai que vous avez parfaitement raison, la première diffusion, elle est en latin, puisque c'est la langue normale, notamment de l'Empire romain, qui n'est pas le seul lieu de diffusion du christianisme, mais qui est, disons, le lieu dont va hériter la chrétienté du Moyen-Âge central, que j'appelle chrétienté latine. Au début, c'est le latin. Mais les langues évoluent, il y a des brassages de population, il y a des changements progressifs qui font que peu à peu émergent ce qu'on appelle les langues vernaculaires. Et à un moment donné, le latin n'est plus compris de la population, et il fait partie d'une langue de culture que tout le monde ne pratique pas. Et donc, dès l'époque carolingienne, il y a des décisions, alors là, du pouvoir politique, puisque c'est lui qui est responsable du salut des gens, qui, dans les réunions des grands de l'époque carolingienne, et également dans les réunions des évêques, dit clairement qu'il faut parler au peuple dans la langue qu'il comprend. Alors, le problème pour les historiens, c'est que les langues vernaculaires ne donnent pas lieu à une mise par écrit aussi importante que le latin, parce que le latin étant la langue de culture, c'est quand même le latin qui va dominer, parce que ça permet une communication entre les différents pays, entre les communautés. Donc, on continue à garder le latin à l'écrit, mais en même temps, on sait très bien que ça n'est plus cela qui est utilisé. Et en fait, peu à peu, par exemple, dans les notes du XIIIe, les clercs écrivent en latin. Donc, en réalité, ils mémorisent beaucoup de choses, ils prennent des notes et ils ne retiennent que quelques bribes de ce qu'ils entendent. Mais c'est un mélange de latin et de langue vernaculaire. Et quand ils remettent leur texte au net chez eux, eh bien, ils gardent le latin qui est un peu la langue de leur culture, mais
la langue
gardent
officielle.
Aussi des mots de langue vernaculaire. Vous voyez. Et c'est seulement en Italie que l'on va trouver des notes d'auditeurs qui sont en langue vernaculaire, parce que les notaires ont l'habitude, par exemple, quand ils font des contrats, ils écoutent les personnes qui viennent les voir et ils notent dans la langue vernaculaire. Donc là, ils peuvent faire la même chose. Mais pour Paris, tout est en latin.
Et la question de la langue choisie pour atteindre le public ciblé est une question qui a aussi beaucoup intéressé votre confrère Michel Zinc,
oui.
Médiéviste, lui aussi est membre de l'Académie des inscriptions. Vous le citez dans votre recueil.
Oui.
Vous discutez régulièrement avec lui de vos sujets de recherche. Comment ?
Oui, depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes intéressés à la même époque à ce sujet. Michel Zinc préparait sa thèse à ce moment-là, qui portait sur les sermons conservés en français, justement à cette période du XIIIe siècle. Et il a constaté, il a démontré que les textes que nous avons ne sont pas véritablement l'écho de ce qui se disait. Ces textes qui sont en français, ce sont des textes qui sont faits pour la lecture. Et c'est fait pour, notamment les femmes pieuses, dans les monastères, dans les béguinages, etc., qui ont besoin d'un support de la méditation. Et ce sont ces textes qui sont dans la langue courante qu'elles pratiquent, qui les aident, vous voyez, à réfléchir. En même temps, la notion de sermon, du coup, devient aussi un texte de dimension gérable. C'est pas trop long, c'est pas comme un roman. Vous avez juste quelques pages, donc ça va nourrir la méditation. Et très rares sont les textes qui peuvent nous donner, en langue vernaculaire française, qui peuvent nous donner une idée de ce qui était prêché. C'est en latin qu'on les trouve.
Encore
et donc c'est
fois.
Pour ça qu'on était tous les deux solidaires, parce que au fond nous avions deux dossiers complémentaires.
J'en reviens aux sources de l'historien, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous n'aviez pas accès à des enregistrements audio pour étudier tous ces sermons. Vos recherches reposent uniquement sur des archives. Comment vous avez fait pour redonner vie à tous ces textes ?
Bah, écoutez, je pense d'abord qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faut en lire beaucoup. Il faut en lire beaucoup pour s'en pénétrer, parce que, comme je vous disais, ce qui est important, c'est pas de chercher, au fond, à refaire un catéchisme, vous voyez, au deuxième degré, en prenant tout ce qu'ils disent et puis en réécrivant un catéchisme à partir de là, mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils communiquent et comment ils communiquent. Et pour ça, il faut travailler sur la masse, sur des corpus, il faut ramasser beaucoup de textes. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. On peut se dire, par exemple, le jour de Pâques, qu'est-ce qu'ils disent ?
Et on prend toute une série d'exemples, sermons prêchés, modèles, etc., pour voir ce qu'ils disent. Ou alors, on peut aussi considérer qu'on va prendre une collection, par exemple, ce prédicateur de Pise, qui s'appelle Federico Visconti, qui est donc ce prélat, archevêque de Pise. On a un ensemble de sermons sur plusieurs années, bien sûr, hein, mais qui donne aussi une variété de prises de parole. Donc, quels sont les éléments récurrents ? À Paris, on a une collection qui, c'est notes prises par un étudiant dans les années 1270, ce fameux manuscrit que j'ai découvert au début de mes recherches. Et là, eh bien, on peut voir 36 prédicateurs prendre la parole, plusieurs à la suite dans des églises différentes, ou bien un prédicateur dans plusieurs églises selon les moments. Vous voyez, donc on a un peu un kaléidoscope là. Et puis quand vous mettez tout ça ensemble, et il faut vraiment se laisser imprégner, puis chercher des fréquences, chercher des récurrences de l'un à l'autre. Et au bout du compte, on arrive quand même à sortir, je crois, deux grandes préoccupations. Et des préoccupations qui correspondent au fait que les sermons sont datés, qu'il ne faut pas du tout imaginer que c'est une éloquence qui est universelle. Ils sont vraiment de cette époque, et aujourd'hui, je crois que ça ferait rire les gens si on parlait comme ça. Mais il faut essayer de trouver à la fois quel est l'écho de l'actualité, donc il faut aussi beaucoup, beaucoup s'imprégner de tout ce qui est propre à cette époque, l'hérésie, les rapports avec les juifs, enfin beaucoup de choses de ce type-là qui marquent la société, ou alors les pratiques récurrentes, comme je disais, la foire tout à l'heure. Mmh. Et puis, par ailleurs, aussi se dire, mais finalement, puisqu'on est dans un courant pastoral, l'actualité du salut, c'est-à-dire comment les gens vont faire leur salut aujourd'hui. C'est pour ça que dans les deux dernières parties de ce livre, j'ai réuni des articles qui se réfèrent en quelque sorte à ces deux domaines d'actualité, celle du quotidien et celle du salut.
Et je voulais terminer justement aussi sur l'actualité. Je le disais au début de l'interview, on parle beaucoup du pouvoir de l'éloquence. Oui. Aujourd'hui, les concours au lycée, à l'université fleurissent. La rhétorique a le vent en poupe, on pourrait dire, oui, auprès d'une certaine jeunesse notamment, un public jeune qui fait écho au tout premier étudiant en théologie de la Sorbonne que vous avez cité au début. Est-ce que vous êtes attentive à l'éloquence, à la rhétorique contemporaine, la façon dont nos sociétés communiquent aujourd'hui ? C'est un sujet qui vous intéresse ?
Oui, bien sûr, je trouve ça fondamental et je vais dire même qu'il y a un vrai problème de réflexion sur la communication. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez effectivement ce retour au langage et à la force du langage, et d'autre part, vous avez cette incompréhension de ce qu'est la communication en croyant que par les réseaux sociaux, on communique. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces concours d'éloquence, dans ces prises de parole, c'est qu'il y a là, finalement, une réaction à l'erreur qui consiste à croire que les réseaux sociaux, c'est de la communication, et au contraire, considérer qu'il faut atteindre l'autre à travers le discours. Pour que ce discours soit vraiment efficace, eh bien, il faut justement trouver les mots qui parlent, le terrain commun, et pour finalement créer du lien social. On est en train aujourd'hui de reprendre conscience comme c'est important. Et je dirais là, on a un peu, à travers ces gens du XIIIe siècle, une image de ce qu'à d'autres époques, dans d'autres sociétés, on a fabriqué.
Et un grand merci, Nicole Berriou, pour vos éclairages qui nous aident à comprendre comment ces prises de parole ont contribué aussi à façonner une conscience et les regards de l'époque. Je rappelle le titre du livre, Les pouvoirs de l'éloquence, prédication et pastorale dans la chrétienté latine au XIIe et XIIIe siècle, aux éditions Drose, et plus précisément dans la collection Titres courants, oui, qui est une collection de poche.
C'est ça. Et l'avantage de cette collection, c'est qu'elle est très bon marché.
Elle est très bon marché. Et on peut la retrouver donc à la librairie de l'Institut et dans toutes les
librairies. Oui, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies.
On mettra le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Canal Académie.